Tiens, tiens, bonsoir. Bien, ça fait plaisir de vous voir. Merci d'être venu. Allez-y, hein, entrez, je vous en prie. Ne faites surtout pas attention au désordre. Il y en a un petit peu partout, des vinyles, des CD, peut-être même quelques cassettes, ça ne m'étonnerait pas. Alors, ce qui va se passer durant l'heure qui va suivre, eh bien, c'est très simple. On va piocher dans tout ça et voir un peu ce qui en sort. Bienvenue dans mon joli foutoir. Close-up, extrait d'un album intitulé Charles Wilp photographiert Bunny. Charles Wilp, eh bien, c'était un photographe de mode allemand des années 60, un petit peu l'équivalent germanique de David Bailey en Angleterre. D'ailleurs, ils partageaient tous deux la même passion pour la musique. C'est ainsi que Charles Wilp a été le premier à photographier Nico avant qu'elle rejoigne le Velvet Underground à New York. Il était aussi le photographe attitré des Monks, ce groupe américain basé en Allemagne qui préfigurait avec 15 ans d'avance l'arrivée du punk. Et donc, il avait fait aussi réaliser l'album dont on vient d'écouter un extrait, un disque hors commerce qu'il offrait en cadeau à ses collaborateurs et au personnel des sociétés avec lesquelles il travaillait. Alors ce n'est pas lui qui en avait composé la musique, il avait confié cette tâche à un certain Marvin Martin, rien à voir évidemment avec le footballeur rémois du même nom, il s'agissait en fait d'un musicien allemand qui s'appelait en réalité Siegfried Ulbrich. C'est donc lui qui a composé pour l'occasion ce véritable concentré de musique pop 60s avec des influences jazzy, bossa nova, exotica, un genre aujourd'hui très recherché par les amateurs de son vintage et aussi tous ceux qui font de la musique à base d'échantillonnage. C'est ainsi que cet album sorti à l'origine en 1965 a été depuis très souvent réédité. La dernière fois, c'était il y a 3 ans en Espagne. Sinon, eh bien, on peut toujours se procurer la version originale de 1965. Rare, mais pas introuvable. Mais pour ça, il faut quand même sortir quelques gros billets.
Blessed Mother, Blessed Mother.
Speed up the money, speed up and run, run, run. Speed up the money, speed up and run, run, run. Speed up the money, speed up and run, run, run. Speed up the money, speed up and run, run, run. Speed up the money, speed up and run, run, run. Speed up the money, speed up and run, run, run. Speed up the money, speed up and run.
Deux musiciens venus du punk rock mais qui n'y sont pas restés très longtemps. Il y avait Vic Godard pour commencer, le leader de Subway Sect, un groupe apparu au beau milieu de la première vague punk britannique en 1977 avec un 45 tours qui déjà faisait bande à part comparé à ceux des Pistols, des Clash et autres Damned. Dommage que cette première mouture pourtant prometteuse de Subway Sect ait carrément explosé après l'enregistrement d'un premier album qui finalement n'est jamais sorti. C'est leur manager Bernie Rhodes qui était la cause de tout ça. Il avait carrément viré tout le groupe excepté Vic Godard avant de remplacer les musiciens partants par d'autres de son choix. Et c'est donc cette nouvelle formation qui a finalement donné naissance à l'album What's the Matter Boy, dont on a écouté tout à l'heure un extrait intitulé Split Up the Money. Par la suite, Vic Godard n'est jamais apparu là où on l'attendait. On a pu le croiser en crooner à Neupaps ou bien en chanteur de jazz. Et c'est peut-être cette incapacité à entrer dans une case bien définie qui l'a empêché de connaître le succès auquel pourtant son talent le prédestinait. Des Déçu par le monde de la musique, il l'a quitté en 1985 pour devenir postier, mais il y est revenu quand même 5 ans plus tard et depuis il sort régulièrement des albums sur lesquels cette fois-ci il garde jalousement le contrôle. Et puis à l'instant, on a enchaîné avec Scritti Politti, le groupe du franc-tireur gallois Greengardside. Les similitudes sont tellement grandes entre sa trajectoire artistique et celle de Vic Godard qu'on pourrait presque se passer de raconter une deuxième fois la même histoire, avec quand même cette différence que Greengardside est toujours resté maître de son destin et que contrairement à Vic Godard, il a connu le succès public aussi bien avec ses propres albums qu'en travaillant aux côtés d'artistes comme Miles Davis, Mos Def, Chaka Khan ou Kylie Minogue. Mais bon, tout ça ne l'a pas empêché cependant de péter complètement les plombs en 1988 et suite à ça de rester presque 10 ans reclus chez lui dans sa maison près de Newport. Il n'a recommencé à faire de la musique qu'à la fin des années 90 et à présent on peut même le voir régulièrement sur scène, ce qui n'était pas gagné avec ce tracker maladif. Son dernier album reste pour l'instant l'excellent White Bread Black Beer, sorti il y a déjà 13 ans, en 2006. Peut-être y en aura-t-il un autre un jour, mais ça, rien n'est moins sûr. Et oui, évidemment, vous connaissez cette musique, c'est celle de Pauvre Lola, chantée en 1964 par Gainsbourg sur son album Percussion. Gainsbourg avait juste oublié de préciser qu'il en avait emprunté la musique à Myriam Makeba, une chanson intitulée Kokozo, qui était sortie quelques années plus tôt sur un album intitulé The Many Voices of Myriam Makeba. Alors la chanteuse sud-africaine n'a jamais attaqué Serge Gainsbourg en justice pour cet emprunt pourtant évident. Ce n'est pas le cas par contre de l'artiste nigérian Babatunde Olatunji, chez qui Gainsbourg, toujours pour le même album Percussion, avait pioché quand même pas moins de 3 morceaux purement et simplement décalqués, juste traduits en français. C'était devenu chez lui New York USA, Marabout et Johanna. Il a fallu plusieurs années avant que les éditeurs américains de Babatunde Olatunji s'aperçoivent de l'emprunt et qu'ils amènent Gainsbourg devant les tribunaux, où ils ont gagné bien sûr, on voit pas comment il aurait pu en être autrement tellement le plagiat ici était criant. Depuis, depuis fort heureusement, les musiques de ces 3 morceaux ont été réattribuées à leur véritable compositeur.
Lèvres sèches, langue aride, rends-les-moi de tous ces baisers, où les as-tu dépensés?
Encore un excellent album révélé par les activistes du label La Souterraine. Sans Soleil était à l'origine un spectacle créé il y a 2 ans à Paris par la chanteuse et violoniste Marie Salva et les musiciens du collectif Danton sur des textes et des musiques d'Alexis Morel. Eh bien, c'est devenu aujourd'hui un album signé Gelsomina, un disque constamment surprenant et poétique dont les racines sont sans doute à chercher du côté des années 70, les chansons jazzy et aventureuses des premiers Brigitte Fontaine ou bien encore les expérimentations dadaïstes de Gong et autres inadaptés chroniques de la chanson et du rock français. C'est certainement l'une des meilleures sorties de La Souterraine ces derniers mois et comme toujours, c'est disponible à prix libre sur le site du label souterraine.biz. Autant vous dire qu'il serait vraiment dommage de s'en priver.
Yeah.
Soft Machine, pour commencer un de mes tout premiers concerts de rock. C'était peut-être bien le tout premier d'ailleurs, mais bon, ça s'est passé il y a longtemps, hein, j'ai un peu oublié. As Long As He Lies Perfectly Still, c'est le titre de ce morceau qui figurait en 1969 sur le deuxième album du groupe, intitulé tout simplement Volume 2. C'est sur ce disque qu'apparaissaient pour la première fois les influences jazzy qui allaient devenir prédominantes par la suite dans la musique de Soft Machine. Et c'est d'ailleurs au rayon jazz qu'on a continué à l'instant avec ce jeu de trompette reconnaissable entre tous, c'est celui de Miles Davis bien sûr. Solar, un extrait de son album Walking, enregistré en 1954 mais sorti seulement 3 ans plus tard. C'est l'un des chefs-d'œuvre de la période hard bop de Miles Davis et aussi un de ses premiers succès publics. Il y est accompagné de David Chilcrout au sax alto, de Horace Silver au piano, Percy Heath à la contrebasse et Kenny Clarke à la batterie. Rien que du beau monde.
On parle tous.
Tout à fait autre chose à présent avec George Harrison, dont le classique triple album All Things Must Pass, sorti en 1970, est sans doute l'une des plus belles trouvailles que j'ai faites au marché du vendredi à Ganges sur l'étalage de Raymond le Disquaire. Non pas que ce soit un objet rare, loin de là, mais bon, sa popularité et son prestige en font un disque qu'il est quand même assez rare de trouver en brocante ou sur les marchés. Alors bon, il n'y a pas le poster à l'intérieur, mais au prix où j'ai payé cette petite merveille, je ne vais quand même pas me plaindre. On va écouter un morceau qui n'est pas le plus connu de How Things Must Pass, mais peut-être par contre un des plus touchants. C'est un message d'amitié que George Harrison envoie à Bob Dylan, avec qui il venait de travailler sur l'album New Morning. Et c'est d'ailleurs Pete Drake, un des accompagnateurs réguliers de Bob Dylan à cette époque, qui joue de la pedal steel guitare sur ce morceau aux tonalités country, intitulé Behind That Locked Door, George Harrison.
Those teardrops, let
George Harrison, Behind That Locked Door, sur son album le plus célèbre, All Things Must Pass, en 1970. Une incursion dans le domaine de la country qui, à ma connaissance, reste unique dans la discographie de l'ex-Beatles. Il avait d'autres priorités, la musique indienne, par exemple. C'est pendant le tournage de Help qu'il en avait fait la découverte et c'est quelque chose qui très vite a pris une importance primordiale dans sa propre musique. C'est en juin 1966 que Harrison a rencontré pour la première fois le grand maître indien du sitar, Ravi Shankar, qui s'est montré tout d'abord un petit peu suspicieux à son égard, avant très vite de se rendre compte de la sincérité et du réel intérêt de Harrison pour la musique indienne. Ils ont scellé tous les deux une amitié très profonde qui a duré jusqu'à la mort du Beatles en 2001, et on leur doit aussi un album commun, l'excellent Chants of India, sorti en 1997, un disque de chants védiques et de textes sacrés hindous mis en musique par Shankar dans un style assez différent des longs ragas instrumentaux pour lesquels il est généralement connu. Vandana Traye, c'est le titre du morceau qui ouvre l'album et c'est ce qu'on écoute tout de suite, Ravi Shankar.
Thank you. with your eyes. Earth re-energized by the sun's rays every day. Take a look out there, planets everywhere. Shadows on the ground never make a sound, fading away in the sunset. Night has now become day for everyone. I can see it all from this great height. I can feel the sun slipping out of sight, and the world still goes on through the
Blues à l'instant avec Sunset sur leur classique Days of Future Past en 1967. C'est l'album où figure le fameux Nights in White Satin, et puis aussi l'un des tout premiers à faire se côtoyer, car en fait ils ne jouaient pas réellement ensemble sur ce disque, un groupe pop et un orchestre symphonique. Et puis juste avant, Ravi Shankar sur son album Chants of India, produit par George Harrison. J'ai eu la chance de voir Ravi Shankar sur scène, c'était je pense en 1972 à la Maison de la Culture de Reims. Ravi Shankar était accompagné au tabla par son vieux complice Alaraka, et c'était un vrai régal de voir la complicité qui unissait les deux artistes et comment d'un simple regard ils arrivaient à harmoniser leurs improvisations. Je me souviens que Shankar était très didactique entre les morceaux, il expliquait longuement avec son inimitable accent le pourquoi et le comment du raga qu'il allait interpréter, et puis je me souviens aussi que le public applaudissait à tout rompre à chaque fois que Shankar se lançait dans des figures musicales compliquées, ce qui déconcentrait beaucoup le musicien qui, au bout du compte, a fini par demander s'il n'était pas possible d'applaudir seulement à la fin des morceaux. Il y en a qui se croyaient sans doute à un concert de Joe Satriani, mais bon, c'est pas la virtuosité qui compte dans un concert de Ravi Shankar.
C'est sur la route, il y a trois cavaliers passants. C'est sur la route, il y a trois cavaliers passants. Il y a trois cavaliers passants, aussi la belle en robe d'amour qui fait son tour. Il y a trois cavaliers passants, aussi la belle en robe d'amour qui fait son tour. Le premier dit vers la demoiselle, j'ai plus que 10 trésors aux yeux. Le premier dit vers la demoiselle, j'ai plus que 10 trésors aux yeux. J'ai plus que 10 trésors aux yeux, et si les vôtres, et si les vôtres s'accordent aux miens, nous irons mieux. J'ai plus que 10 trésors aux yeux, et si les vôtres, et si les vôtres s'accordent aux miens, nous irons mieux. Le second dit vers la demoiselle, j'ai plus que 10 forêts en feu. le second dit vers la demoiselle. J'ai plus que 10 forêts en feu. J'ai plus que 10 forêts en feu, entendez belle. Battons le ciel quand il est haut, c'est un beau jeu. J'ai plus que 10 forêts en feu, entendez belle. Battons le ciel quand il est haut, c'est un beau jeu. Le troisième dit dans son langage, j'ai plus que 10 silences au cœur. Le troisième dit dans son langage, j'ai plus que 10 silences au cœur. Moi j'ai le cœur trop vagabond et sur la terre, il y a 100 000 cœurs en robe d'amour qui font leur tour. Moi j'ai le cœur trop vagabond et sur la terre, il y a 100 000 cœurs en robe d'amour qui font leur tour. La 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 la.
Les Trois Cavaliers, une chanson traditionnelle tellement ancienne qu'on en perd la trace. Il en existe, tenez-vous bien, pas moins de 151 versions, 137 au Canada, 10 en France, 2 en Belgique, 1 aux États-Unis et 1 en Suisse. Celle qu'on vient d'écouter est bretonne. Elle a été répertoriée dès 1890 dans un recueil intitulé « Chansons populaires de Basse-Bretagne » et c'est Mélène Favennec qui l'interprétait à l'instant. Originaire de Quimperlé et fils du fondateur du Bagad local, Mélène Favennec a su marier très vite ses racines bretonnes avec son amour du folk américain et notamment de la musique de Bob Dylan. Il a fait quelques albums très intéressants et notamment un dont je me souviens particulièrement intitulé « Au secret des luges » sorti en 1982 avec des sonorités jazz-rock. Son dernier album solo date de 2012. Il y mettait en musique des poèmes de Max Jacob. Depuis, il en a fait 2 autres au sein du trio EDF. Bien que le genre connaisse actuellement un véritable renouveau, eh bien ce sont quand même les années 70 qui restent l'âge d'or des musiques traditionnelles françaises. Inspirés par leurs homologues anglo-saxons, beaucoup de jeunes musiciens, dans une quête d'authenticité, s'étaient replongés à cette époque dans leurs racines musicales. Une véritable scène en était née avec des groupes comme La Bamboche, Mélusine, Perlin Pimpin Folk, Aristide Padigro et sans doute les plus connus Malicorne, le groupe de Marie et Gabriel Yacoub. On va retrouver ces derniers en 1976 sur leur album Almana, un disque concept dont chacun des 12 titres correspond à l'un des 12 mois de l'année. Le morceau qu'on va écouter immédiatement est celui du mois de juin, c'est l'un des rares titres électriques de cet album. Voici la Saint-Jean, Malicorne.
Mignonne, allons voir si la lune.
Pour commencer avec un extrait de leur troisième album Almana, leur plus grand succès puisqu'il s'en est vendu plus de 500 000 exemplaires dans le monde. C'était suivi à l'instant par les Écossais String Driven Thing, superbe pochette en 1972 pour le deuxième album de ce groupe folk rock de Glasgow. Le premier était sorti 2 ans plus tôt de manière confidentielle. Alors le groupe reposait essentiellement sur le talent de ses fondateurs, Chris et Pauline Adams, un frère et une sœur, et puis aussi celui du violoniste Graham Smith qu'on a retrouvé plus tard chez Van der Graaf Generator. Ce deuxième album reste le meilleur disque de String Driven Thing, qui a connu par la suite des fortunes diverses et plusieurs séparations. Reformé en 2001, le groupe est toujours en activité aujourd'hui, mais malheureusement sans son chanteur et compositeur Chris Adams, disparu il y a 3 ans. C'est à présent sa sœur Pauline qui assure les vocaux dans le groupe. Allez, on termine l'émission avec une fanfare, mais une fanfare funk et jazzy, qu'on pourrait également qualifier de post-punk, puisque puisqu'elle a été active entre 1980 et 1983, c'est Pig Bag, un groupe qui n'a jamais véritablement fonctionné en tant que tel, du fait de la multiplication d'égos qu'on pouvait y trouver et qui rendait tout ça quelque peu incontrôlable. Pig Bag laisse quand même un tube, Papa's Got a Brand New Pig Bag, numéro 3 en 1981, et puis aussi quelques albums dont on retiendra surtout le premier, Dr. Haeckel and Mr. Jive, un album qui s'ouvre avec le morceau qu'on va écouter à présent et qui est aussi le deuxième 45 tours du groupe, ça s'appelle Getting Up. Voilà, c'est avec ça qu'on se quitte ce soir, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence pour Rocomondo, et puis dans 15 jours pour un 45e joli foutoir. D'ici là, n'ayez crainte, je n'aurai rien rangé. Un joli foutoir, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, et vous pouvez compter sur moi pour ça.